Alhamdulillah wa ba'd. Nous sommes toujours dans l'étude des paraboles du Coran. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu en lire et en étudier 7, si je ne me trompe pas. Nous passons aujourd'hui à la 8e parabole. قال الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de raisins ou de vignes sous lequel coulent les rivières et y avoir toutes sortes de fruits, puis que la vieillesse l'atteigne alors qu'il a une descendance faible et qu'un ouragan contenant du feu s'abatte sur lui et le brûle. Ainsi Allah vous expose clairement les signes afin que vous méditiez. Cette parabole dans Sourate Al-Baqarah est une parabole qui est mentionnée pour mettre en évidence, la finalité des œuvres de celui qui a fait le bien et qui à la fin se met à faire le mal. Ou la finalité des œuvres de celui qui fait du bien, mais qui ne recherche pas à travers cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc, ça englobe en tout cas des gens qui ont fait le bien, puis ont annulé ce bien à cause de mauvaises œuvres. Donc, c'est une parabole qui met en évidence la finalité de l'action et de l'aumône pour Allah. Puis, qui est rattrapé par des mauvaises œuvres qui sont venues annuler tout ce bien. Ayawaddu ahadukum. Est-ce que l'un de vous aimerait? Ayawaddu ay ayuhibbu. Est-ce que l'un de vous aimerait? Ici, cette interrogation, c'est pour faire un blâme. Ici, cette interrogation, c'est pour faire un blâme. Et la réponse, elle est évidente, c'est la négation. Mais ce blâme-là, il a été fait avec subtilité. C'est plus fort que si on avait mis une simple négation ou bien une simple interdiction. C'est subtil. C'est poignant, ça touche directement la personne. Et ça vise à l'éloigner d'un mal. C'est comme si tu disais, au lieu de dire à la personne, ça c'est haram, ne le fais pas. Tu lui dis, par exemple, la yaf'alu hadha aqilun. Tu dis, une personne douée d'intelligence, il ne lui convient pas de faire ça. Ou bien, quelqu'un de ton rang, ne fait pas ça. Vous voyez, ça, il y a de la douceur dans le ressenti de la personne, et en même temps, ça vise à le répugner de faire cette action-là. Naam. Donc, est-ce que l'un de vous aimerait, là c'est, on parle au singulier, mais c'est général, naam, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Est-ce que l'un d'entre vous, ou aimerait-il avoir un jardin? Ce jardin-là, on nous le décrit. On donne sa description. C'est un beau jardin. C'est un jardin qui renferme les meilleurs fruits, les meilleures plantations, les dattiers et les vignes. Pour avoir des dattes et pour avoir du raisin. Et ça fait partie des meilleurs fruits du paradis. En plus de cela, il y a de l'eau, il y a des rivières qui coulent sous cela. En plus de cela, ce jardin est orné, Il est splendide, il est magnifique et il renferme beaucoup de sortes de fruits. Donc c'est florissant, c'est beau. Ça, c'est ce qu'il possède. Ça, c'est ce qu'il possède. Et lui, c'est quoi sa situation, ce propriétaire de ce beau jardin? Naam, sa situation, c'est qu'il a atteint la vieillesse. Il n'a pas la capacité de travailler à nouveau, de développer à nouveau, de faire autre chose, de se réformer, de se ranger dans un autre domaine, de se reconvertir dans un autre domaine. Non, il a atteint un âge avancé. En plus de cela, il a des enfants en bas âge et il en a plusieurs. Le message, c'est quoi? Il a vraiment besoin de cette cause de subsistance. Il a vraiment besoin pour lui et pour ses enfants. Il a besoin de ce jardin, de cette subsistance. Et de ce jardin-là, il se nourrit, il nourrit sa famille, et ils se mettent à l'abri, et ils vivent très bien. Alors que la situation est comme décrite, alors qu'il est dans le plus haut besoin de ce jardin-là, on nous décrit ce qui arrive à ce jardin, qui a trois caractéristiques comme on l'a mentionné. Il a les meilleurs fruits, les dattiers, les vignes, raisins, et ainsi de suite. Les plus beaux, les plus bons. Deuxième descriptif, sous lesquels coulent des ruisseaux. Naam. Donc, l'apparence, elle est splendide. Il se réjouit, il en tire profit. Et troisièmement, c'est orné de toutes sortes de fruits. C'est beau, c'est agréable, même à regarder. Alors que la situation est comme décrite, alors qu'il est dans le plus grand besoin, qu'il est âgé, qu'il a des enfants qui sont faibles, dépendants de lui par cette subsistance-là, que se passe-t-il? Il y a une tornade, il y a un ouragan, comme une colonne tourbillonnante, attisée de feu, qui s'approche de son jardin, qui détruit littéralement la totalité de son jardin. Et tout ce qu'il a fait durant toute sa vie part en fumée. Tout ce qu'il a fait, tout ce dans quoi il s'est fatigué, ce grand patrimoine pour lequel il a œuvré, eh ben, tout ça, en un court instant, disparaît. Naam est complètement détruit. Voici la situation de son jardin. Voici la situation de ses biens. Que pensez-vous de la douleur? Que pensez-vous de la tristesse qui va s'abattre sur cet homme? Un vent violent, une tornade, un tourbillon, un ouragan, tel une colonne de fer comprenant du feu qui est venu décimer et détruire son jardin. De surcroît, la subsistance qui était pour lui, pour ses enfants, le fruit de son labeur par la grâce d'Allah Azzawajal. Que pensez-vous de sa peine, de sa tristesse, de son désarroi? Et comme ont dit les savants, si la tristesse avait pu tuer son adepte, elle l'aurait tué. Elle l'aurait tué. Et on nous dit bien ici, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. إِعْصَار, ce sont des vents violents qui s'élèvent et tournent. C'est une tornade. Naam, c'est le pluriel, et son pluriel, c'est Aasir, Aasir. Et en général, Rih, le vent, et ses synonymes, ses noms, ses différents noms, sont au féminin. Sauf ce mot-là, Aasir. Il est Muzakkar. Omar ibn Khattab était un jour avec ses compagnons et des compagnes. Et les a interrogés, parce que les compagnons méditaient le Coran. Fiman tarawna hadhihi al-aya nazalat. Vous pensez que ce verset a été révélé au sujet de qui? Et il leur a récité le verset Awaddu ahadukum an takuna lahu janna. Et ils ont répondu Allahu a'lam. Omar ibn Khattab s'est énervé et il leur a dit Qulu na'lam wa la na'lam. Dites, on sait ou on ne sait pas. Et celui qui a une réponse, je le somme de la mentionner. Alors, Abdullah ibn Abbas, le grand savant du Coran, qui était encore jeune, a dit, Fi nafsi minha shay'un ya amir al-mu'minin. J'ai en moi une science de cela, je pense avoir une science de cela, ô responsable des croyants. Écoutez l'éducation. Écoutez le vrai développement personnel chez Sahaba et dans le din. Hein? Pas le développement mensonger des gens qui ne sont même pas développés eux-mêmes sur les réseaux. Non. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Omar ibn Khattab a dit à Abdullah ibn Abbas, Ibn Akhi, قول ولا تحقر نفسك. Fils de mon frère, ô mon cousin, dis, exprime-toi et ne méprise pas ce que tu as. C'est comme ça qu'il poussait les jeunes à chercher la science, à adorer Allah Azza wa Jal, à se développer, à devenir des hommes. Naam, il faut laisser l'enfant se développer. Faut pas le castrer, le censurer dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il cherche à faire, à se développer. Il faut le laisser. Il faut le laisser grandir. Il faut le laisser devenir autonome. Il faut le laisser développer ses sens, son intelligence, ses connaissances. Barakallahu fikoum. Tout en l'encadrant. Tout en l'encadrant. Mais pas l'encadrer comme si tu le tenais enchaîné. Non. L'encadrer comme s'il y avait un grand terrain avec des limites et dans lequel il pouvait s'adonner à ses activités. Et tu le surveilles au loin. Naam. Barakallahu fikoum. Donc ça, c'est un passage qui est important dans l'éducation. Ibn Akhi, قول ولا تحقر نفسك. Ô mon cousin, ô fils de mon frère, il le valorise, il lui donne de la place, il l'appelle d'une manière douce et noble et il lui dit ne méprise pas ta personne. Abdullah ibn Abbas a alors dit radiyallahu anhuma, duribat mathalan li'amalin. Ça a été mentionné en parabole sur des œuvres. Omar ibn Khattab lui a dit, quelle œuvre? Il lui a dit, les œuvres de celui qui est dans l'ostentation. Omar ibn Khattab a dit, c'est un homme riche qui fait des obéissances et des bonnes œuvres. Puis Allah lui envoie un diable. Et alors il le pousse à faire les péchés jusqu'à ce qu'il noie ses bonnes œuvres. Naam. Donc, c'est une parabole qui est mentionnée sur une personne qui faisait du bien et à la fin, elle a été rattrapée par le mal. En général, c'est à cause d'une maladie qu'il y a dans le cœur entre lui et Allah. Et il se met à faire les actions des habitants du feu. Allah Azza wa Jal annule donc ses bonnes œuvres. Naam. C'est l'image de celui qui a fait des sadaqat, il a fait du bien. Peut-être qu'il avait de la sincérité. Naam. Peut-être qu'il avait du bien. Mais son mal l'a rattrapé et a pris le dessus. Il a donc annulé ses bonnes œuvres. Et lorsqu'il arrive au Malqiyam, hein, au moment où il a le plus besoin de ses hasanat, que se passe-t-il? Il perd tout. Que se passe-t-il? Il perd tout. Iyadhan billah. Il arrive au Malqiyam, hein, son jardin a brûlé, c'est-à-dire ses hasanat ont brûlé. C'est pour exposer celui qui a fait du bien et qui s'est fatigué à le préparer. S'il n'est pas sincère, il ne fait pas attention à son intention, à son cœur, à ses œuvres. S'il ne les préserve pas, il se peut qu'il arrive yawm al-qiyama, il ne trouve rien. Au moment où on aura le plus besoin pour la peser, pour le paradis. Alors il nous faut être sincères et craindre Allah Azza wa Jal dans nos œuvres. L'hypocrite entre également ici. Il fait le bien en apparence, mais il arrive au Al-Qiyama, il n'a pas de hasanat. Au moment où il a le plus besoin de hasanat. Le prophète alayhi salat wa salam nous a décrit comment est-ce qu'on allait être ressuscité. Et parmi la description, bohma, ça veut dire dépouillé de toute richesse, de tout bien. Il regarde devant lui, il voit rien sauf ce qui est avancé, à sa droite, à sa gauche, et ainsi de suite, devant lui, que le feu. Puis le prophète dit, craignez Allah, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Tu vas venir qu'avec tes hasanats. Mais s'il n'y a pas de hasanat, s'il n'y a pas de hasanat, avec quoi est-ce qu'il y aura la pesée, avec quoi est-ce qu'il y aura le paradis pour obtenir la miséricorde d'Allah puis le paradis? Naam. Et vous remarquez qu'on a cité les meilleurs fruits, les dattes, les raisins, qu'on surnomme la reine, naam, ou le roi des fruits, par rapport aux délices, par rapport aux nutriments, par rapport à l'enrichissement. Mais malgré tout ça, malgré qu'en apparence c'est beau et c'est bon, mais le résultat final, c'est qu'on lui a tout annulé, on lui a tout enlevé. Et on a fait trois comparaisons ici. La première, c'est qu'on a mis en évidence les bonnes œuvres par un paradis ou un jardin fruitier. Splendide. On a mis en évidence ce qu'on appelle el mufsidat, ce qui détruit les bonnes œuvres. On a mis cela en évidence par la tornade, avec du feu. Et on a mis en évidence le besoin. On a mis en évidence le besoin des hasanat par la vieillesse de cet homme-là et ses nombreux enfants en bas âge. Donc ici, c'est vraiment une parabole sensationnelle qui expose et qui met en évidence cette situation. Naam, cette situation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, ici, une grande leçon sur la finalité des œuvres. Ici, une grande leçon sur la finalité des œuvres. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, disait dans le tafsir, kamathalil mufarriti fi ta'atillahi hatta yamut. À l'image de celui qui est négligent dans l'obéissance d'Allah, puis il meurt sur cela. Allahu Akbar. On était jeunes, on a grandi. Qu'est-ce qu'on a avancé pour demain? Qu'est-ce qu'on a préparé pour rencontrer Allah? On a grandi, on œuvre, mais est-ce qu'on préserve nos bonnes œuvres? Est-ce qu'on a peur de l'annulation des œuvres? Qatada rahimahullah ta'ala disait: Fahada mathalun, fa'qilu an illahi jalla wa az amthalahu. Qatada rahimahullah ta'ala disait: Voici une parabole. Comprenez de la part d'Allah. Élevé, puissant soit-il, ces paraboles. Puis il a cité le verset de sourate Al-Ankabut, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Voici des paraboles qu'on mentionne aux gens, ne les comprennent que les savants. Puis il a dit, hadha rajulun kaburat sinnu wa raqqa 'azmuhu. Voici un homme qui a pris de l'âge. Voici un homme dont les os sont usés. C'est-à-dire, il est âgé. Wakathura iyalu, il a beaucoup de gens à sa charge et d'enfants. Thumma ihtaraqat jannatuhu ala baqiyati dhalik. Puis, son jardin a pris feu. Et tout ce qu'il y avait. Au moment où il en avait le plus besoin. Allah nous dit, ayuhibbu. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait perdre tout cela et perdre toutes ses œuvres le jour de la résurrection où il en aura le plus besoin? Tafsir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Ikrimah, Mawla ibn Abbas, quant à lui, a dit: Hadha mathalun li rajulin ya'malu bil iman wa yuhsinu al-amal wa sadaqa wa nafaqa. C'est l'exemple d'un homme qui œuvre et qui a la foi, qui œuvre avec la foi et qui fait de bonnes œuvres et donne des aumônes et des sadaqas et dépense. Hatta idha kana inda khatimati amali, jusqu'à arriver à la fin de ses œuvres, à la fin de sa vie. Wa huduru ajali, ashraka wa asaba kabiratan min al-kaba'ir.
Il est, à la fin de sa vie, il est tombé dans le shirk. Et il a commis un péché majeur. Fa'ahbat Allahu amala wa huwa kafir. Allah a donc annulé ses œuvres et il a fini dans la mécréance. Tafsir ibn Abi Hatim, rahimahullah. Fa subhanallah, c'est une parabole qui est vraiment, yani qui affecte celui qui lit cela et qui doit développer en nous la peur. Naam, qui doit développer en nous la peur de se retrouver dans cette situation, de se retrouver dans ce malheur. Pour les plus anciens, ils ont connu le crash boursier aux États-Unis, une année où la bourse s'est écroulée et ça a été un des plus grands malheurs qui ait touché l'économie mondiale. Naam. Eh ben, sachez que ce qu'on nous mentionne ici en parabole est bien plus gravissime, est bien plus effrayant que le mal qui a frappé ces gens-là et par conséquent, la bourse mondiale. Parce que dans ce bas monde, si tu perds, tu peux rattraper la plupart des choses. Mais là, il arrive le jour du jugement dernier. Il ne pourra que dire, ô Seigneur, fais-moi revenir. Mais on lui dira non. On lui dira non. Parce que même si on n'a pas qu'une vie dans ce bas monde, on ne vit qu'une fois. Dans ce bas monde, on ne vit qu'une fois. On ne peut pas revenir pour corriger, pour rectifier, pour œuvrer. Il faut se corriger maintenant. Pour ne pas avoir à subir ce malheur qui frappe cette personne en parabole. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ces paraboles pour qu'on médite. Nous cite ces paraboles pour qu'on s'éloigne du mal. Il nous dit, كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement les signes afin que vous réfléchissiez ou que vous méditiez. Naam. Donc, on ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas laisser passer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paraboles, mais on doit chercher à les comprendre. Parce que on nous appelle ici à méditer. Et comme le disait Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, celui qui visualise cette parabole et qui a un minimum de raison et qui voit tout le mal que ça lui apporterait et l'affliction et le regret, na'am, il ne peut pas se laisser aller à ça. Mais ça n'est que la faiblesse de foi et le manque de raison et de clairvoyance qui peut laisser l'individu se complaire dans cette situation. Hein? Ça vient de la folie. Ça vient de la folie. Comment est-ce que tu peux t'avancer à ce danger? Non? Seul celui qui a un manque de raison peut se laisser aller dans ce danger. C'est pour ça qu'Allah nous dit, la'allakum tatafakkaroun. Allah nous cite ces signes pour qu'on réfléchisse, pour qu'on médite. Parce que avec la raison, normalement, on ne fait pas cette chose-là. Donc, la grande leçon, attention à la mauvaise fin. Attention à ne pas préserver ses hasanat. Attention. Comme l'a dit Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, c'est pour ça que certains parmi les compagnons et les pieux prédécesseurs avaient peur de l'hypocrisie parce que c'est ce qui fait perdre la personne à la fin de sa vie. On doit avoir peur. On doit avoir peur des mauvaises fins, de la mauvaise fin. On doit avoir peur de ce qui est inscrit dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous préserve de la mauvaise fin. La parabole suivante. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فأحل الله البيع وحرم الربا. La neuvième parabole, ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiendront que comme se tient celui que le toucher du Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse, dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur,
peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Voici une parabole qui nous est mentionnée pour ceux qui consomment les intérêts usuraires. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la mauvaise situation de celui qui consomme les intérêts et de l'instabilité qui va le frapper après l'avoir frappé dans ce bas monde, après avoir été frappé par l'avidité et l'ivresse de la recherche de la dunya et l'amassement des richesses, il sera frappé le jour de la résurrection par cette ivresse comme si le diable l'avait possédé et l'avait bouleversé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhina ya'kuluna ar-riba » ceux qui mangent ar-riba. Ceux qui mangent, ça comprend toutes les transactions usuraires. Cependant, on a cité la consommation, le fait de manger, ça rentre dans la bouche, parce que, en général, c'est pour la consommation. C'est pour augmenter la qualité de vie. Naam. Donc, c'est le but premier, comme l'a expliqué l'imam al-Barawi, rahimahullahu ta'ala. Al-riba, les intérêts, ce qu'on va traduire ici par les intérêts, al-riba, raba, yarbu, ça vient de al-nama wa ziyada, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation. Ça, c'est le sens dans la langue arabe. Naam, comme dans le verset, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ يعني elle augmente. فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ça n'augmente pas chez Allah. Donc, riba, c'est l'augmentation. Et dans la religion, ce qui est la forme de riba qui est connue et célèbre et qui était pratiquée dans la jahiliya, c'est que la personne prêtait de l'argent à l'autre et lui ordonnait ou lui disait « Je te prête, mais quand tu me rends, tu me rajoutes de l'argent dessus pour le temps que j'ai attendu les services que je t'ai rendus. » Qui n'en est pas en réalité. Aussi, quand la personne n'avait pas les moyens de le rembourser le moment venu, il lui disait « Donne-moi plus de temps et je te rajoute de l'argent. » Donc c'est ça le riba qu'il pratiquait dans la jahiliya. Naam, il y a ce qu'on appelle riba al-fadl et riba al-nasi'a. Quoi qu'il en soit, c'est haram. Et aujourd'hui, ils maquillent riba en utilisant d'autres noms. Ils disent des intérêts, ils disent des frais, ou ils disent des pénalités. Par exemple, la personne achète un appartement payable en plusieurs fois. Elle donne 30%, plus elle paye petit à petit. Naam. Et dans son contrat, on lui glisse, on lui met... Et on lui met quoi ? Barakallahu fikum. On lui met que si, arrivé à la date butoir où il doit donner la mensualité ou bien ce qu'il doit donner tous les 2 mois ou 6 mois ou peu importe, on lui dit si tu es en retard et que tu n'as pas les moyens de payer à ce moment-là, tu seras majoré par exemple de 1% ou de 3%. Tu auras une pénalité. Tu devras rajouter telle somme. Ça, c'est du riba. S'il signe, il signe le riba. S'il signe, il pratique le riba. Naam. Il doit dire, cette clause-là, enlevez-la moi. Cette clause-là, je n'y adhère pas. Cette clause-là, je ne suis pas d'accord. Barakallahu fikum. Il n'est pas permis de faire cela. C'est du riba. Naam, c'est de l'intérêt. Puis, il y a 6 catégories de choses où il y a de l'intérêt, plus particulièrement, et il y a des règles religieuses à étudier. Naam, là n'est pas notre sujet, mais le commerçant se doit de connaître ces choses-là afin de ne pas tomber dans le péché, d'où Mada, il ne le sait pas. Donc ceux qui mangent de l'intérêt, naam, on nous dit quoi ? La yaqumun, ils ne se lèveront pas, c'est-à-dire le jour de la résurrection en sortant de leur tombe. Illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Si ce n'est comme celui que le shaitan piétine, celui que le shaitan frappe et bouleverse,
Naam, en le possédant. Al-mas, il est mamsous, il est comme possédé par le diable. Il va se lever yom al-qiyam à sortir de sa tombe dans cet état. Il sera sur la place du jugement dernier, tout le monde pourra le voir de la sorte. Naam, voyez-vous cette image répugnante? C'est l'image de celui qui consomme riba dans ce bas monde. Il sera comme un majnoun. Il était majnoun à courir derrière ce bas monde, dans ce bas monde, derrière l'argent, peu importe le halal, le haram, et ben, dans l'au-delà, il sera ressuscité en sortant de sa tombe, comme celui que le diable a possédé. Il fera des crises. Il sera majnoun. Il sera perdu. Il sera pas stable face au malheur qu'il attend, à la punition qu'il attend. Et on nous dit bien, l'expression yatakhabbaquhu ash-shaytan. Yatakhabbaquhu ash-shaytan. At-takhabbut. À la base, c'est le fait de mettre un coup, de piétiner, comme la chamelle. On dit naqatun khabutun. Pour celle qui met des coups aux gens, qui tape le sol, comme l'a expliqué Al-Barawi. Eh ben, c'est ça l'image. D'accord, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette parabole sur eux? Qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Ils ont dit, mais ils se sont opposés au jugement d'Allah. Ils ont osé se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son jugement. Wa huwa al-hakim. Wa ahsanu al-hakimin. Wa huwa al-hakam. Naam. Et cela ne peut provenir que de l'ignorant, que de l'orgueilleux. Ou celui qui fait mine de ne pas savoir parce qu'il veut continuer dans le haram. Hein? Il est obstiné, il est borné. Comment se sont-ils permis de s'opposer au jugement d'Allah et de dire innama al-bay'u mithlu ar-riba? Allah azza wa jal a légiféré et lui il dit non mais moi je pense que non mais moi dans mon cas non mais l'époque non mais a'oudhu billah. Anta 'abdun lillah, tu es un serviteur d'Allah, tu dois te soumettre à ton Seigneur, tu dois accepter son jugement. Innal hukmu illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah et parmi nous d'Allah al-hakim. Barakallahu fikum. Ils se sont permis de s'opposer au jugement d'Allah Azza wa Jal et à sa législation. Alors que lorsqu'il y a un texte, il n'est plus permis de polémiquer et de débattre. Et ça remet en cause le jugement d'Allah, la sagesse d'Allah, la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créé, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est mauvais pour nous. Il sait dans quoi le mal prime et ce dans quoi le bien prime. Et il est plus miséricordieux envers nous que l'est notre propre mère qui nous a enfantés et portés. Barakallahu fikum. Donc, cette pratique que faisaient les gens de la jahiliya a été interdite graduellement en islam. Naam. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé le jugement et a laissé aucune zone d'ombre. Parce que la parabole, elle a pour but l'éclaircissement. Mais le Coran lui-même, c'est un bayan pour les gens. C'est un exposé pour les gens. Allah dit, wa ahallallahu al-bay'a. Non, c'est pas comme vous dites que riba, c'est comme le commerce. Non, parce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite le commerce. Naam, c'est un besoin mondial. Il y a des nécessités, il y a un bien, il y a des utilités. Naam. Wa harrama ar-riba, et il a rendu illicite ar-riba, l'usure. Car ça comprend de l'injustice. Naam. Car ça plonge les sociétés dans l'endettement. Naam. Comme le font le FMI avec les pays pauvres. Hein? On vous donne, vous inquiétez pas. Faites et faites et faites. Oui, mais il y a un petit pourcentage. Et ensuite, on n'arrive pas à payer, c'est pas grave, on décale et on vous rajoute du pourcentage. Et ensuite, le pays croule sous les dettes. Naam. Ça, c'est un stratagème satanique pour mettre en péril et pour surfer sur les richesses des autres pays. Wala hawla wala quwwata illa billah. Après cela, on nous dit
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. Celui à qui l'exhortation de son Seigneur est parvenue et a donc cessé, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte et a fait de ce Coran une exhortation pour les croyants. Naam, parce que c'est eux qui espèrent et craignent Allah Azzawajal, c'est eux qui aiment Allah Azzawajal d'un amour sincère et pur. Lorsque l'exhortation parvient à la personne, il y a des gens qui travaillent dans le haram. Il y a des gens qui ont fait des études et sont dans un domaine. Et ils sont croyants, ils aiment Allah et son messager. Mais, subhanallah, masakin, ils sont loin de la science. Eh ben, ces gens-là, on leur dit, l'exhortation d'Allah vous est parvenue. Le rappel d'Allah Azzawajal vous est parvenu. Si vous cessez au moment où ça vous parvient, tout ce qui est passé avant, c'est passé, c'est excusé. Mais vous ne devez plus manger de l'intérêt. Tout ce qui a été fait est fini, on ne revient pas dessus. Naam, Allah Azza wa Jal passe dessus. Personne ne peut conserver ce qu'elle a acquis auparavant. Puis on nous dit, wa amruhu ila Allah. Naam, est-ce que la personne, elle est sincère dans cela? Est-ce que la personne est véridique dans ça? Est-ce qu'elle ne va pas retomber? Son affaire, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves lui ont été exposées. Il connaît la vérité. Il s'est arrêté. Il a eu peur d'Allah azza wa jal. Naam, ce qui est passé par miséricorde, c'est passé. On laisse. Mais pour ce qui est à venir, naam, et pour la rétribution, tout ça c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on lui dit, wa man aad. Par contre, celui qui retourne à l'usure et aux transactions muharramah, et donc, il n'a pas véritablement bénéficié de l'exhortation. Ça n'a pas pénétré le cœur. Ça ne s'est pas mélangé avec les recesses de son cœur, les profondeurs de son cœur. Il a poursuivi dans le haram, dans le mal, dans le business haram, dans le travail haram. Même s'il est maquillé et que le nom est dévoyé ou galvaudé. Non. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Voici les habitants du feu où ils y demeureront éternellement. Al-riba, ikhwat al-iman, n'est pas à prendre à la légère. Wallahi al-azim, c'est un des plus grands péchés. C'est tellement grave que Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous dit, la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba, wa mukila, wa katiba, wa shahidey. Qala, wa hum sawa. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le message d'Allah a maudit celui qui consomme l'usure. Celui qui le fait consommer. Il a maudit celui qui note le contrat où il y a l'usure. Et il a maudit les deux témoins. C'est-à-dire tous les gens de la chaîne. Celui qui fait. Celui à qui on fait faire. Hein? Celui qui note le contrat et les deux témoins. Tous. Hein? C'est pas Moukilahou. Naam, c'est pas Moukilahu. Je réviserai, inshaAllah ta'ala, le dabt du lafz. J'ai un doute. Entre deux mots, je regarderai, inshaAllah. Un autre hadith, effrayant, wallah, qui nous montre le caractère vraiment bas de l'usure et sa gravité. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-riba sab'una baban ahwanuha inda Allah azza wa jal kalladhi yankihu umma. L'usure comprend une 70aine de branches. Ou 70 branches. La branche la plus basse est semblable à celui qui a un rapport avec sa propre mère. A'oudhu billah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un prêche, au pèlerinage d'adieu ou bien lors de l'ouverture de la Mecque, kullu liban,
كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. Tout riba de la jahiliya est désormais sous mes deux pieds. Et le premier riba que j'annule, c'est le riba de l'Abbas, son propre oncle. Al-riba, ça détruit la barakat des biens de la personne, même si en apparence il y en a beaucoup. Allah dit, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah détruit la bénédiction de l'usure et il développe les aumônes. Allah nous informe que celui qui reste dans le riba, il est muharibun lillah wa rasouli. Allah Azza wa il tente de faire la guerre contre Allah et de son message. Et son message. Allah Azza wa dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. On nous dit dans ce verset, si vous ne cessez pas, donc l'usure, apprêtez-vous à recevoir la guerre de la part d'Allah et de son messager. Donc celui qui reste dans l'usure alors qu'il a entendu les textes, na'am, il tente de combattre contre Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi le châtiment qu'il aura dans la tombe. Quand le prophète a vu des gens qui nageaient dans un fleuve de sang, et lorsqu'il arrivait au bord, on ouvrait sa bouche, on le remplissait cela de pierres, puis on le rejetait dans le bassin. Et il ne cessait de faire ses allées et retours, et on lui remplaçait, on le jetait. Quand il a demandé c'est qui, on lui a dit, Akil riba, c'est celui qui consommait riba dans ce bas monde. Allahu Akbar. Donc, de ce texte, il y a beaucoup de leçons à tirer, notamment l'interdiction de riba, l'interdiction de riba des transactions usuraires et mada et le fait de apporter cela chez soi et de nourrir avec sa famille. On tire de ce hadith la réalité de la possibilité d'être touché par un djinn, par un diable, par un shaitan, parce que les Mu'tazila ont renié cela. Et on dit que ça n'existait pas. Certains sont allés jusqu'à dire, ça fait partie des inventions des Arabes anciens. Yani comme les contes, comme l'ogre, comme, vous voyez, ce genre de choses. Naam. On tire de ce passage, l'interdiction des transactions où il y a de l'injustice. Des transactions où il y a de l'injustice. On tire de ce passage l'interdiction de polémiquer une fois que le texte nous est parvenu. Quand Allah parle, il n'y a plus à parler et à débattre, à polémiquer. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Quand Allah Azza wa Jal dit c'est haram, c'est haram. Le croyant véridique, il polémique pas sur les interdits. Il dit sami'na wa ata'na, comme les compagnons ont dit, on a entendu, on obéit. Non, on ne doit pas faire comme les peuples passés et tricher avec Allah Azza wa Jal. Hein? Barakallahu fikum. Aussi, on voit que la soumission, yani le délaissement du haram, elle n'est pas que parce qu'on connaît les sagesses. Certains disent, on fait pas, par exemple, on mange pas le porc parce que telle partie, elle est malade et on boit pas parce que ceci, parce que cela. Non. La première chose à dire, c'est parce que nous, on est des musulmans. Allah Azza wa Jal nous l'a interdit dans le Coran, on est des serviteurs d'Allah, on se soumet à notre maître. C'est ça la vraie réponse. Hein? Certaines personnes veulent tellement rentrer dans le principe d'intégration, ou bien de dissolution même, que ils veulent pas parler de la soumission à Allah. Ils veulent pas parler du dîn, de l'islam. Mais ils veulent parler des sagesses. C'est pas bon pour la santé, c'est ceci, c'est cela. Certes, il y a forcément des sagesses. On peut en connaître, on peut ne pas en connaître. Mais c'est pas ça la réalité de l'épreuve et de l'action. La réalité, c'est que t'es un serviteur d'Allah et que ton maître t'a donné un ordre, tu t'y soumets. T'es un serviteur d'Allah Azza wa Jal, ton maître t'a interdit une chose, tu t'y soumets. Et t'es fier de le faire et tu le proclames. Barakallahu fikum. Voici pour cette seconde parabole pour aujourd'hui. Demain, inshallah ta'ala, on en étudiera d'autres. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suite à l'invitation à l'entraide pour le iftar dans certains pays, notamment d'Afrique, et pour faire des forages, on a reçu pas mal de dons. J'invoque Allah Azzawajal en faveur de tous ces donateurs et ces donatrices. Il y a eu beaucoup de sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, vous pardonne vos fautes, vous élève dans les hauts degrés du paradis, qu'il vous accorde le bonheur dans votre foyer, qu'il réforme vos parents, époux, enfants, vos proches. Qu'Allah Azzawajal réforme vos parents, épouses, enfants et proches. Qu'Allah accepte de nous, bénisse nos œuvres et bénisse pour nous ce mois de Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc j'ai regardé pour ce qui est du hadith, na'am, de Jabir ibn Abdillah, dans lequel il y a un musulman, il y a, je trouve une version où c'est bien, mu'kilahu, na'am, une version où c'est bien, mu'kilahu, et mu'kilahu. Naam, et mu'kilahu. Naam, est-ce que je vois le plus? Je vais pas dire une version, c'est la lecture que j'ai ici. Et ce que je vois ensuite, le hadith 1597 de Sahih Muslim. Naam, mu'kilahu. En venant dans la source plutôt, mu'kilahu. Barakallahu fikum. Et ad-du'a, quand le prophète dit qu'Allah maudit, c'est-à-dire il l'éloigne de sa miséricorde. C'est-à-dire il l'éloigne de sa miséricorde. Et quand on dit il mange, comme on a expliqué ça en général, c'est pour être consommé. Mais c'est la même chose, c'est pour acheter un appartement, une voiture ou peu importe. À partir du moment où c'est consommé dans ce sens large, ça entre dedans. Et mu'kilahu, c'est celui qui donne ar-riba. C'est celui qui donne ar-riba. Donc, akilur riba, c'est celui qui a en apparence gagné. C'est celui à qui on a rajouté de l'argent. Ça, c'est akilur riba. Et mu'kilahu, c'est celui qui a donné cet ajout-là. Celui qui a donné cet ajout-là, c'est celui qui est opprimé. D'accord? Ainsi, le hadith s'éclaircit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi. رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته